Chronique d'été est un podcast proposé par la Mutualité française pour mieux comprendre et mieux connaître l'histoire des mutuelles. Une histoire singulière, innovante, sociale et solidaire pour le bénéfice de 35 millions de Français. Alors, on dit que la solidarité n'existe pas ou n'existe plus, que la santé n'est que curative, qu'il serait temps de mener des actions de prévention. On dit encore que les Français ont toujours aimé les avantages sociaux, alors vrai ou faux? Si on profitait des beaux jours pour faire un peu de ménage dans ces idées que, de notre côté, nous qualifions bien volontiers d'idées reçues. Écoutons sans plus attendre ce qu'en pense Charlotte Siné-Lange, historienne, spécialiste de l'histoire de la mutualité. Alors, la solidarité nationale, insufflée et proposée par l'État, est très nouvelle. C'est plutôt vrai ou plutôt faux ?
C'est plutôt vrai. Si on remonte sur une longue période, pendant très longtemps, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, au moins, l'idée d'une solidarité nationale n'existe absolument pas. L'idée même d'un devoir ou d'un droit à l'assistance pour les plus pauvres est totalement absente. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la pauvreté et la maladie, qui sont d'ailleurs mélangées, qui ne sont pas vraiment dissociées, elles sont prises en charge par les solidarités familiales, villageoises, et quand ces solidarités n'existent plus, le seul recours, c'est l'Église, au sein des hospices, des hôtels-dieu. Alors plus tard, vers le XVIe, XVIIe siècle, l'État va même développer une conception répressive de la pauvreté, avec l'idée qui se développe d'une pauvreté dangereuse pour l'ordre social. Et c'est le développement des hôpitaux généraux ou des dépôts de mendicité qui sont là pour redresser moralement les pauvres et les mendiants. Alors dans cet océan d'indifférence, il y a quand même des exceptions, et notamment les communautés professionnelles, les artisans qualifiés des villes qui s'organisent en associations pour se défendre et pour se protéger face aux risques sociaux. Ce sont les confréries, les corporations et le compagnonnage qui vont transmettre au mouvement mutualiste cette tradition solidaire.
Alors, autre vérité ou pas, on dit que la Révolution française a eu un effet positif sur la condition de vie des pauvres. C'est vrai ou faux, ça, Charlotte ?
Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que la Révolution française représente un tournant radical dans cette histoire parce que, pour la première fois, la nation va proclamer son devoir de solidarité envers les plus pauvres. La Constitution de la Première République le dit clairement, les secours publics sont une dette sacrée. Et à ce titre, on va élaborer un programme d'assistance extrêmement complet pour les pauvres, les malades, les vieillards, les infirmes, les femmes seules, les veuves, etc. C'est très complet. Mais ce programme ne sera jamais concrétisé parce qu'on est dans un contexte très tendu, très conflictuel, hein, des guerres extérieures, des guerres intérieures. Et donc, on va manquer de moyens pour concrétiser ce projet qui ne verra en fait jamais le jour, à l'exception d'une petite institution qui est créée par les révolutionnaires. Ce sont les bureaux de bienfaisance qui sont aujourd'hui les CCAS.
Alors, ce n'est pas rien tout de même, disons-le. Autre vérité ou pas, les Français ont toujours souhaité que l'État leur garantisse un maximum de soutien sur le plan social. Vrai ou faux ?
Je dirais faux. Et pour ça, il faut remonter au XIXe siècle avec le débat qui s'installe en Europe sur l'idée d'un système de protection sociale obligatoire, tel que l'Allemagne l'initie dans les années 1880, les assurances sociales bismarckiennes. Ce modèle va être repris par beaucoup de pays en Europe, mais pas la France. La France qui a une relation très, très complexe aux questions sociales et à l'état social. Et donc, dans ce contexte-là, la France va plutôt privilégier un système de prévoyance privée et individuelle et un système d'assistance pour les plus démunis. Alors, un exemple caractéristique de cette opposition à l'idée d'une obligation, ce sont les premières retraites qui sont mises en place en 1910, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Cette loi, elle est votée au bout de 30 ans de parlementation, de débats très très complexes, et finalement, une fois votée, elle n'est quasiment pas appliquée. En fait, elle est refusée par une grande partie de la population et l'obligation de cotiser n'est même pas respectée. Ça montre bien cette opposition féroce des Français à l'idée d'une obligation.
Alors, dernier point, vérité ou pas, la sécurité sociale est directement née des effets de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai ou faux ça, Charlotte ?
Eh bien c'est faux. On l'a vu au travers de ces développements, on a vu le rôle ancestral de l'Église dans l'assistance, qui est encore aujourd'hui un pan important de notre politique sociale, l'émergence des solidarités professionnelles qui vont donner naissance plus tard au mouvement mutualiste, les concepts révolutionnaires sur le droit à l'assistance, tout ça montre que les politiques sociales, la protection sociale est le résultat d'un très long processus. Alors il y a une dernière étape très importante dans cette histoire, c'est la Grande Guerre qui fait littéralement explosé les problématiques sociales en France, avec un nombre de morts, d'infirmes, de gueules cassées, de veuves et d'orphelins extrêmement élevé, qui va faire émerger l'idée d'une dette de la nation envers ses victimes et qui va amener au vote de deux lois importantes en France, les lois de 1928 et 1930 sur les assurances sociales. Assurances sociales qui donc précèdent la sécurité sociale par un système assez complexe et pas tout à fait complet, hein, mais qui quand même vont préfigurer la sécurité sociale qui, elle, va être votée en 1945 sur de nouvelles bases, celles du programme du Conseil national de la Résistance.
Alors merci beaucoup Charlotte Sinet-Lange. C'était Chronique d'été, un podcast proposé par la Mutualité française pour mieux comprendre et mieux connaître l'histoire des mutuelles.